Bonjour et bienvenue à l'économie en direct. Jacqueline Voraz au micro de IDFM Radio avec Sabrina à la technique. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 janvier 2024 et vous êtes bien dans l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission que vous écoutez en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+ pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Une émission que vous pourrez retrouver bien sûr aussi en podcast. Préparateur mental ou artisane, ils et elles sont engagés dans une démarche de performance. Ensemble, découvrons ces activités en compagnie de Jean-Christophe Maisonneuve. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous accueillir sur notre antenne, Jean-Christophe. Fondateur de JCM Mental Performance, c'est ça? Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, La performance d'une vie. Un témoignage et un guide précieux pour donner le meilleur de soi-même et que nous allons décrypter dans quelques instants. À vos côtés, Claire Gouzic. Bonjour Claire.
Bonjour Jacqueline.
Très heureuse de pouvoir enfin vous recevoir sur ce plateau. Fondatrice et dirigeante du Faubourg de la Renaissance, vous rénovez des meubles. Vous nous expliquerez comment est née cette passion qui s'inscrit aujourd'hui dans une alternative économique et écologique.
Super.
Bienvenue et merci. Pardon à tous les deux d'être les invités en direct de IDFM Radio. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose de retrouver notre chercheur et conférencier en géopolitique, Gérard Vespierre, auteur de notre chronique « Décryptons le monde », puisqu'au début de cette nouvelle année, nous reprenons notre rubrique dédiée aux affaires internationales, avec l'œil toujours expert donc de notre politologue, oh là là, valdoisien Gérard Vespierre. Bonjour Gérard et bonne année.
Bonjour Jacqueline, bonne année aussi à vous et à vos invités et à tous les auditeurs.
Gérard, sur le plan international, nous avons malheureusement fini l'année 2023 avec un nouveau conflit au Proche et Moyen-Orient. Conflit dont il faut bien dire qu'il a détourné notre regard de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Or, dans six semaines, cette guerre va entamer sa... Enfin, dans quelques semaines, cette guerre va entamer sa troisième année. Vous, Gérard, quel regard portez-vous sur ces deux années d'intenses combats qui comptabilisent aujourd'hui quand même plus de 500 000 morts et blessés pour les deux pays?
Vous faites très bien, Jacqueline, avant d'envisager les prochains mois, de poser la question sur ces deux terribles années qui viennent de s'écouler. Les événements militaires furent loin d'être linéaires, en évolution permanente, constante. Il y a eu en réalité trois phases fort différentes que les commentaires au jour le jour ne permettent pas d'apercevoir. Premièrement, il y a eu le succès initial russe en 2022. Nous avons été tous surpris par l'invasion qui a eu lieu depuis la Biélorussie, depuis la Russie, depuis la Crimée, qui a donc bousculé complètement l'armée ukrainienne et qui a permis aux Russes de prendre 20% du territoire. Donc, premier succès russe initial. Et deuxièmement, une deuxième phase en 2022 d'un succès ukrainien parce que les Russes se sont rendus compte qu'avec 170 000 hommes, ils ne pouvaient pas prendre le contrôle d'un pays de plus de 40 millions d'habitants. Ils ont donc redessiné leur stratégie en reculant de Kiev et en reculant de Kharkov. Donc, deuxième succès, mais cette fois-ci ukrainien. Enfin, en 2022 également, nous avons eu la contre-attaque ukrainienne sur Kharkov, la libération de Kherson, donc à nouveau un succès ukrainien. Et de ces deux succès ukrainiens, eh bien, on s'attendait à ce que cela se poursuive. Eh bien non, en 2023, le front s'est stabilisé et les lignes de défense russes ont résisté à la contre-attaque ukrainienne. Donc là, nous avons une année 2023 plutôt favorable à la Russie. Donc, les Ukrainiens ont pensé, et nous aussi, que ce succès de 2022 allait continuer en 2023. Eh bien, l'efficacité des lignes de défense russes ont stoppé ces espoirs. Nous avons donc eu une succession de phases qui ont vu se succéder en deux ans les succès de chaque pays. Les deux années passées, finalement incertaines sur l'issue des combats, donnent à l'année 2024 une importance primordiale.
Oui, vous nous dites, Gérard, vous nous dites donc que les Ukrainiens et nous aussi avons été trop optimistes sur la réussite de l'offensive ukrainienne attendue l'été dernier.
Oui, l'art de la guerre, comme l'on dit, est avant tout une école de réalisme. La stratégie défensive comporte des avantages, ce que l'armée russe a su mettre en place à travers ses lignes de tranchées, de champs de mines, de casemates sur la plus grande partie du front. La Russie a appris de ses échecs. Premièrement, elle a regroupé ses forces à l'est et au sud, comme on l'évoquait, c'est-à-dire autour du Donbass et devant la Crimée. Elle a appris à brouiller, deuxièmement, les signaux GPS nécessaires à la précision des missiles américains HIMARS. Et troisièmement, elle a construit un efficace réseau de défense. Enfin, les chars occidentaux livrés aux Ukrainiens et leur stratégie d'emploi, c'est aussi très important, la stratégie, n'ont pu venir à bout de ces réseaux de défense russes, mines et tranchées.
Oui, vous êtes en train de nous confirmer, Gérard, que l'Ukraine est dans une situation délicate, d'autant plus que le président des États-Unis n'a pas encore obtenu l'approbation du Congrès sur les 60 milliards de dollars d'aide militaire et économique à l'Ukraine.
Effectivement, les vents pourraient être plus favorables pour le gouvernement et l'armée ukrainienne. Mais d'un autre côté, les mois d'hiver vont être difficiles à traverser pour les deux armées. Et d'un point de vue opérationnel, vont immobiliser les lignes de front. Il faut aussi ajouter que dans les prochains mois, l'armée ukrainienne va recevoir en particulier du Danemark et des Pays-Bas ses premiers avions F-16 qui devraient lui permettre de lancer des missiles plus en profondeur sur la Crimée et sur l'arrière des lignes russes. Je n'évoque pas de frappe sur le territoire russe lui-même, car les bombardements effectués par les Ukrainiens sur la ville russe de Belgorod récemment ont été ponctuels. Et ils ont constitué une réponse aux frappes russes sur les villes ukrainiennes. Ces bombardements civils en Russie, devraient rester limités, car la stratégie ukrainienne est de cibler en absolue priorité des objectifs militaires russes, soit dans les zones occupées, soit sur le territoire russe lui-même. Comme on le voit avec les destructions de voies ferrées en Russie et les attaques sur les aérodromes militaires russes. Il y a même 2 jours, les Ukrainiens ont détruit 2 avions de détection électronique russe volant au-dessus de la mer d'Azov. Donc l'Ukraine vise essentiellement des objectifs militaires russes et la stratégie russe, elle, est très différente. Elle cible des objectifs civils pour augmenter le coût du conflit auprès de la population afin qu'elle se lasse de la guerre et agisse sur le moral de l'armée ukrainienne.
Oui, 2 stratégies totalement différentes. Vous n'évoquez donc nullement un ralentissement militaire et encore moins des possibilités de trêve ou de cessez-le-feu en 2024 dans cette guerre ?
Jacqueline, pour que la situation s'oriente vers des négociations, il faut qu'une des deux parties ait soit l'intérêt de le faire ou bien y soit forcée. Il est certain que le sort des armes n'a pas vraiment rendu son verdict actuellement. C'est pour cela que les initiatives militaires de ce printemps et de l'été 2024 pour les deux pays auront une influence probablement déterminante. En termes de négociations, nous avons vu récemment l'échange de plusieurs centaines de prisonniers russes et ukrainiens. Donc les deux parties finalement se parlent, même si des intermédiaires sont indispensables, qu'ils soient turcs ou bien des Émirats arabes unis. Les négociations pourraient donc s'élargir sur les éléments du conflit lui-même, les territoires. Il faudra faudra y parvenir un jour ou l'autre, de toute façon.
Voilà, on termine sur cette note d'espoir, comme toujours avec vous, Gérard. Merci pour votre réflexion couvrant toute la dynamique de cet horrible conflit. Et puis voilà, comme vous, espérons que les prochains mois nous rapprochent d'une possible solution. Je rappelle avant de nous quitter à nos auditrices et auditeurs que tous vos écrits, interventions médias de vous, Gérard Vespierre, dans tous les domaines des relations internationales, se retrouvent sur votre site www.lemondedécrypté. Je ne dis pas les tirets, mais bon, on écrit Le Monde Décrypté, c'est bon. C'est gratuit, il faut juste s'abonner. Je vous dis à bientôt, Gérard.
Merci, Jacqueline.
À bientôt.
Bonne fin d'émission.
Merci, au revoir. On marque une pause avant de retrouver mes invités. À tout de suite sur IDFM Radio. Have you thought about us? Looking up at the stars, through the nebula dust. I will find you, my love. IDFM Radio, c'est l'économie en direct et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, auteur d'un ouvrage « La performance d'une vie », témoignage et guide précieux pour donner le meilleur de soi-même, et Claire Gouzic, fondatrice et dirigeante du Faubourg de la Renaissance pour rénover des meubles, une activité de passion mais qui s'inscrit dans une démarche économique écologique. Jean-Christophe Maisonneuve, on démarre avec vous.
Avec plaisir.
Alors, donner le meilleur de soi-même peut paraître a priori évident. Et cependant, de la théorie à la pratique, le chemin est parfois long et sinueux. Aujourd'hui, vous êtes réparateur mental, formateur, conférencier, auteur. Et on va s'attarder sur votre livre « La performance d'une vie », un témoignage touchant que j'ai lu avec intérêt et qui ne laisse vraiment pas indifférent. Alors, ma première question, Jean-Christophe, à quel moment vous est venue cette idée de livre ?
Assez récemment, en fait.
Oui.
Il est paru l'année dernière, donc milieu d'année 2023. J'ai mis 9 mois à l'écrire, donc comme
un bébé.
Bel accouchement,
oui.
Voilà. Et j'avais idée d'écrire quelque chose. Je savais pas comment, je savais pas quel était le fil que j'allais utiliser. Et quand je m'y suis senti prêt, parce qu'il faut être prêt pour écrire ce genre de livre, c'est que le chemin avait été fait en amont, c'est que mes formations en préparation mentale m'ont permis de mieux me connaître pour justement pouvoir expliquer le mieux possible les étapes à suivre.
Le parcours.
Enfin, les étapes à suivre pour se débarrasser des douleurs du passé. Quelque part, ce livre aurait pu s'intituler... transformer les douleurs du passé en force d'aujourd'hui.
Vous l'évoquez de toute façon à un moment. Alors, un livre préfacé par Élodie Gossuin qui pose des mots très bienveillants, j'irais presque fraternels, que d'une sœur avec son frère.
Presque. Ça fait quand même plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît. Et puis parce que, en fait, presque fraternel parce que dans son témoignage et dans son parcours de vie, elle a vécu des choses qui sont similaires à ce que j'ai moi traversé et ce que je raconte dans le livre.
Alors, malgré des souvenirs douloureux, vous parlez d'un hymne à la vie. Moi, j'ai trouvé ça magnifique.
Bah, c'est le but. Le but du jeu, c'est ce livre, en fait, il utilise en exemple, en témoignage, mon parcours de vie. Mais tout l'intérêt de ce livre, c'est pas mon histoire, c'est les leçons à retenir que je mets à la fin de chaque chapitre.
Ça. Voilà.
C'est comment on transforme ce qui nous arrive en quelque chose de positif de vraiment transformer ça en force.
C'est ça. Et c'est dans ça que ce livre est vraiment intéressant parce que, en fait, on est ballotté entre des émotions fortes qui font mal parfois et puis cette note d'espoir qui dit mais voilà le chemin à suivre quand on a vécu tel ou tel drame parce que voilà on va pas tout dévoiler ce matin mais votre la première punition dont vous parlez est très touchante elle tord les boyaux.
Oui, et en même temps, j'estime que c'est tout le contraste en fait d'une vie, de vivre des moments émotionnellement forts, que ce soit positif ou négatif, et de réussir à avancer malgré cela, parce que c'est ça la vie. Et que mon parcours de vie n'est pas ni pire ni mieux que tout à chacun. Je parle de l'addiction, je parle de la maladie, je parle du deuil, je parle de beaucoup de choses, la dévalorisation et autres. Chacun, en fait, je pense que personne n'est épargné par la vie.
On a tous son sac à dos.
Exactement. Et c'est aujourd'hui, moi j'ai mis 35 voire 40 ans à me débarrasser de certaines choses, ou en tout cas à avancer sur ces domaines-là. Et je me dis si je peux faire bénéficier de mon expérience et des outils que j'utilise, pour que les gens n'attendent pas 30 ans pour avancer.
Comme vous l'avez fait. Après, comme vous le dites très justement... À un moment donné, il faut se sentir prêt, parce que j'ai l'impression que malgré tous les conseils qu'on peut lire, c'est vraiment soi-même qui devons faire ce chemin de résilience, puisque c'est le mot.
C'est ça. Je suis passé dans les mains d'une psy, je suis passé dans les mains d'un hypnotiseur, je suis passé dans les mains, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai un peu tout fait, tout testé pendant toutes mes années, avec des symptômes plus ou moins différents. Mais effectivement, faut avancer, faut débroussailler un petit peu, et puis quand on s'en sent la force, on peut avancer. Ce livre, ça a été pour moi la finalité de ma vie.
Oui, certainement. Oui, ça vous a permis de encore mieux être dans cette résilience.
C'est ça. Et surtout de prendre du recul avec mon histoire.
Alors, toujours pour parler de ce livre, le contexte familial, c'est une maman bienveillante. Mais un père dont vous découvrirez plus tard qui est alcoolique et qui fait que il a des réactions parfois douloureuses vis-à-vis de vous.
Oui, c'est ça, des réactions que je comprenais pas avant de savoir que c'était la maladie qui le faisait agir comme ça. Et donc on le remet pas lui en question au départ, mais on prend sur soi et on est convaincu que notre référence en tant qu'enfant nous dit la vérité. Donc quand il y a des choses qui sont dites qui peuvent être blessantes, en tout cas moi j'y croyais. Et c'est ce qui a été très compliqué après pour à transformer en quelque chose de différent. À force de se répéter les choses, vous savez, le cerveau il est comme ça, hein, il fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Et plus on répète les choses et plus on y croit.
C'est pour ça que vous répétez souvent « je suis nul ».
Oui, c'est pas moi. En fait, au départ, c'est lui qui le disait. Oui. C'était soit j'étais nul, soit j'étais premier.
Je veux dire dans votre livre.
Hein, oui, et à chaque début de chapitre. C'était le ressenti que j'avais sur ces périodes-là, en fait. C'était « en fait, je suis nul ». Et j'estimais ne pas pouvoir faire quelque chose de ma vie. Donc, je me souviens très bien, je crois même que je l'écris aussi, j'avais pas d'ambition. Je voyais pas au-delà de.
Oui, vous étiez trop préoccupé par tout ce que vous aviez à vivre sur le moment, en fait, à gérer ces émotions et puis ces douleurs. Hein. C'est. Un moment, page 44, vous décrivez les carrières de votre frère et de vos sœurs, de belles carrières, hein, somme toute, mais vous dites que la méthode de votre père ne vous a pas transformé en champion du monde, à l'instar un petit peu de l'exemple de Serena Williams avec son père, son propre père. Mais est-ce que c'est votre père qui pensait ainsi ou c'est peut-être vous-même qui pensiez ainsi à ce moment-là?
Alors, je pense comme ça aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, oui.
Non, je pense que mon père a essayé...
Excusez-moi, Jean-Christophe, est-ce que c'est pas parce que déjà, compte tenu du contexte, vous mettiez vous-même la barre très haute?
Ah oui, mon rapport à la perfection certainement empreint de ce que j'entendais. Quand on vous dit, qu'on vous répète, soit t'es premier, soit t'es nul, évidemment, on va chercher à être premier. Et quand on est deuxième, on est encore nul, alors qu'on n'est que deuxième, ou plutôt déjà deuxième. Donc du coup, dans la vie, on cherche à être toujours le meilleur.
Oui.
Et donc, ça a peut-être développé mon esprit de compétition, mais ça avait vraiment un retour de bâton. Enfin, parce que quand on n'y arrive pas,
c'est
destructeur.
C'est brûlant dans ce cas-là. Oui, je comprends. Alors, vous donnez une méthode quand ces démons reviennent un petit peu, vous serrez le poing. Un peu comme
un ancrage.
Voilà, un ancrage. Mais alors, je me suis posé la question, ce poing, c'est un peu comme quand on a envie de mettre son poing sur la figure de l'autre.
Non. Alors, il y a des ancrages. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les sportifs avec qui je travaille.
Oui.
C'est associer un geste à une visualisation et une émotion, plus qu'une image. C'est-à-dire que dans certaines situations, je vais avoir besoin de motivation, de sérénité et autres. Et ça va être, moi je serre le poing, il y a d'autres sportifs qui font d'autres choses. Et puis aujourd'hui j'ai ancré d'autres gestes qui vont apporter au contraire beaucoup de calme et de sérénité et qui vont apaiser la machine.
Qu'on respire.
Voilà.
Jean-Christophe, je vous propose qu'on fasse une pause et puis on reprend cette interview très intéressant. À tout de suite.
À tout de suite.
Cosmic love. bright light year glow. Stardust bees, a galactic rose. Big Bang dreams of painted blue. Lion love is shining through. And you know that I look up to you. Starry, starry night.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
IDFM Radio, c'est toujours l'économie en direct et ce matin, je suis en compagnie de Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, auteur d'un ouvrage « La performance d'une vie », témoignage et guide précieux pour donner le meilleur de soi-même, et Claire Gouzic, fondatrice et dirigeante du Faubourg de la Renaissance, pour rénover des meubles, une activité de passion, mais qui s'inscrit dans une démarche économique, écologique. On verra ça tout à l'heure avec Claire. Claire, précisément, vous avez entendu le témoignage de Jean-Christophe et ouais. Vous nous avez dit en off que ça vous parlait, ça vous touchait.
Ouais, c'est oui, parce que ben après ça et les parents nous construisent, et c'est vrai que quand on est la vie démarre faussée en fait par des parents qui ne vous construisent pas mais qui essayent de vous détruire volontairement ou involontairement, c'est quand même compliqué parce que bah du coup cette notion de t'es nul ou c'est difficile pour les enfants parce que déjà c'est notre réalité à nous, c'est notre quotidien, et puis en plus de ça on est sur une quête vaine en fait parce que quoi qu'on fasse de toute façon ça ne sera jamais assez.
Ça
marche. Donc c'est vrai après de construire, ouais. C'est compliqué après de se construire adulte et d'avoir l'impression de réussir ou en tout cas d'atteindre des objectifs parce qu'on a toujours cette espèce d'ombre ou de redondance de toute façon ça sera jamais assez. Et c'est vrai que ça me parle, son témoignage me parle beaucoup, ouais. Ouais, ouais.
Et puis aussi le risque de reproduire soi-même avec ses enfants, cette attitude, c'est même si on a le sentiment de faire bien, on est parfois un
après,
petit peu
c'est comme tout trauma en fait, c'est comme de toute façon c'est des violences, les violences psychologiques
absolument,
sont les mêmes en fait,
absolument.
Soit on devient soit on essaye de faire le contraire de tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a vécu, soit on devient bourreau à notre tour en fait, il y a pas beaucoup de solutions, et c'est vrai que moi j'essaye de faire en sorte que mon fils ait une vie saine et soit écouté, et surtout que je sois heureux mon fils, quoi.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on est parents en fait.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que si le chemin est long pour pouvoir arriver à comprendre tout ça et pouvoir vivre au-delà de ça.
Ouais. Merci Claire, merci pour ce témoignage. Jean-Christophe, donc vous dites que votre livre c'est un hymne à la vie, et vous allez donc ça aussi c'est une partie très touchante, vous remerciez votre père grâce à qui vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, donc c'est magnifique.
Oui, c'est la boucle est bouclée. Son objectif était pas je pense que l'objectif des parents n'est pas de détruire les enfants et qu'ils le font maladroitement. Et que Alors, certes, il y a la maladie, mais je pense qu'il le faisait avec toujours une bonne intention. Son intention en lien avec ses croyances, en lien avec sa vie aussi, parce qu'on pourrait creuser et comprendre ce qui s'est passé chez lui.
Oui, oui.
Moi, je me souviens de ce qu'il disait. Hein. Il disait qu'à 2 ans, il était déjà avec son baluchon sur l'épaule, à quitter la maison.
C'est
un enfant de la guerre, donc c'est... Pardon. Donc, il a certainement une histoire un peu compliquée, mais sur laquelle j'ai pas envie non plus d'aller, parce que je suis pas psy.
Oui.
Alors, c'est bien, la différence, elle est vraiment là. Hein. C'est-à-dire que je préfère partir de ce qui est vécu et qui n'est pas modifiable et le transformer pour en faire quelque chose qui me permet d'avancer vers la performance, c'est-à-dire vers ma capacité à révéler qui je suis complètement. Et en fait, mon job, c'est ça.
C'est ça, et en faire profiter, bénéficier les gens avec lesquels vous travaillez. Alors, on va y venir. Juste encore une chose encore sur ce livre, hein, puisque moi, je vous dis, il m'a beaucoup touchée. C'est que la leçon qu'il faut retenir, donc aujourd'hui, vous êtes dans un environnement très bienveillant, une épouse adorable, des enfants, un beau-père charmant. Enfin voilà, j'ai bien noté que vous étiez votre maman qui a refait sa vie aussi. Et vous dites ce qu'il faut, je suis presque émue de le dire, il faut voir le verre à moitié plein, tout le temps.
Oui. Bah, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant de regarder ce qu'on a plutôt que ce qu'on cherche à obtenir. Alors aujourd'hui, ni ma mère, enfin ni mon beau-père, on n'a plus personne. Tout le monde est parti. C'est là aussi où on se rend compte de l'espace vide qui se crée à ce moment-là. Mais effectivement, J'ai vu récemment une vidéo de celui qui a inventé la naturopathie en France, qui mettait en fait ça sert à rien d'haïr les gens. On a le choix de penser, d'orienter nos pensées. On peut penser positif, on peut penser négatif. Haïr quelqu'un, c'est dépenser de l'énergie à le détester. Sauf que cette personne-là, elle s'en fiche. Elle ressent peut-être la haine, mais voilà. Mais nous, tous les jours au quotidien, il faut l'alimenter cette haine. Et c'est difficile, ça nous ronge dans l'intérieur.
Oui, c'est épuisant.
Alors que si on est indifférent, si on ne dépense pas d'énergie pour le haïr, etc., bah, on va en garder pour soi. Et puis on va arrêter de se... Et puis alimenter...
Se bouffer soi-même.
Exactement. Alimenter une énergie négative ne nous rend pas heureux. On est là, on est sur Terre aujourd'hui pour se développer, pour grandir et faire grandir l'autre. Donc ce que j'ai essayé de tirer de ça, c'est comment moi j'ai grandi avec toute mon histoire et comment aujourd'hui tout le monde peut grandir grâce à son histoire.
Écoutez, félicitations pour ce chemin parcouru. Donc aujourd'hui, vous avez un lien très fort entre le sport et l'entreprise. Ce lien, c'est l'individu. Et vous travaillez avec des personnes pour leur apporter tout le bien-être dont ils ont besoin pour être au mieux, c'est ça?
C'est ça. En fait, j'ai travaillé toujours, alors que ce soit dans le sport, moi, j'ai pratiqué le rugby, donc j'ai toujours fait du sport collectif, rugby et volley. J'ai travaillé en entreprise où j'ai managé pendant des années. Et en fait, mon rôle a toujours été de mettre l'individu au profit du collectif. Pour ça, il faut, un, que l'individu soit complet, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se réalise, qu'il puisse connaître la totalité de son potentiel et de sa capacité à performer. Et puis le mettre au profit d'un collectif. Donc c'est ce que vivent les entreprises, c'est ce que vivent les clubs sportifs. Et il y a de gros besoins pour permettre aux gens de s'épanouir dans les entreprises.
Donc vos conseils, toujours en lien avec ce livre, vont permettre, vous l'avez dit, le contrôle émotionnel de l'individu ou d'un collectif dans le domaine du sport ou de l'entreprise, la gestion du stress, l'impact des croyances, nous en avons parlé tout à l'heure, la gestion du temps aussi, très importante. Et puis, pour les entrepreneurs, vous les aidez à créer leur pitch.
Je les aide à créer leur pitch, on en parlait tout à l'heure.
C'est un sacré programme.
Oui, parce qu'en fait, la préparation mentale, souvent, les gens savent pas ce que c'est et on passe un peu pour des gourous. Donc, il fallait que concrètement, je trouve quelque chose qui concerne tout le monde, ou en tout cas une grande partie des gens. Et les gens sont capables de se présenter, quand on travaille le pitch, c'est être capable de parler de soi, de façon professionnelle et de façon émotionnelle. Mais ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir en parler, se connaître et maîtriser ses émotions, savoir quel est le message quand une émotion arrive.
Je suis très mauvaise alors dans, dans l'exercice.
Elles sont présentes en permanence. Oui, donc il faut être capable de comprendre ce qu'elles veulent dire et non pas de les gérer, mais d'en faire des alliés. Et le pitch, c'est un excellent moyen de mettre ça en avant.
Voilà, de prouver
que. Et la gestion du temps, exactement. C'est pareil. Pour avoir assisté à d'autres. Je suis pas dans la technicité de la prise de parole ou dans la technicité de faire un planning ou autre, mais c'est le pourquoi, qu'est-ce qu'on a à dire derrière et pourquoi on agit de telle ou telle façon.
Oui. Aujourd'hui, vos besoins, c'est intervenir en entreprise, soit sous forme de formation ou de conférence, pour justement sensibiliser le plus grand nombre de personnes à croire en son potentiel.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu une fin de carrière chez L'Oréal, où effectivement, c'est des sociétés où où les actionnaires sont demandeurs.
Oui, sont très présents.
Voilà. Ouais. Donc, on peut pas prendre le temps forcément, humainement, de développer les gens.
Les dividendes doivent être versés à la fin de l'année.
C'est ça. Donc, il y a des priorités. Et je me rends compte dans beaucoup de sociétés, pour avancer, il faut s'occuper de l'humain. Il y a de plus en plus de demandes. Après, depuis Covid, avec tous ces burn-out et toutes ces dépressions et autres, j'ai plus les stats en tête.
Oui, c'est énorme.
Les dépressions sont très présentes. Ça coûte cher aux entreprises. Donc, au-delà du pouvoir financier, c'est aussi comment rendre les gens heureux d'aller bosser, comment faire en sorte qu'ils soient bien dans leur poste pour pouvoir être performants dans leur job.
Oui, ça coûte cher parce que c'est de l'absentéisme, donc des frais maladie.
Et puis des remplacements de temps en temps, donc du turnover, du recrutement, de la formation, donc c'est passé par là. Et oui, intervenir en entreprise sous différentes formes, je fais des formations sur tout ce qui est gestion émotionnelle, gestion du stress, gestion des tensions, voire aller jusqu'au pitch ou la gestion du temps. Et puis intervenir aussi sur la gestion des peurs, parce que ça on en parle peu, mais il y en a beaucoup. Et puis je fais de l'accompagnement individuel.
Très bien.
Pour les entreprises, les dirigeants et entrepreneurs.
Donc vos clients sont à la fois des sportifs, des entreprises et des particuliers?
Oui, beaucoup. Alors, je garde les sportifs. Oui. Je travaille avec 3 sportifs qui préparent les Jeux Olympiques cette année. C'est toujours intéressant parce que pour le coup, ce sont des gens qui se connaissent déjà très bien et qu'il suffit de bouger un petit peu le curseur et on voit le résultat.
Pour améliorer.
Parce qu'ils s'entraînent régulièrement, qu'ils ont des compétitions régulièrement, donc ils peuvent éprouver les outils qu'on leur donne. Un entrepreneur, c'est la même chose, sauf qu'il s'entraîne moins souvent. Il est dans le dur, il est dans le match tout le temps. Donc pour moi, les entrepreneurs sont des très très bons clients, parce que les enjeux sont importants, parce qu'ils sont souvent aussi pas tout seuls. Donc je travaille beaucoup avec les entreprises, les dirigeants, les entrepreneurs, les particuliers,
un peu moins.
Parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres sources, mais il y a certains qui ont essayé d'autres méthodes, d'autres et qui n'y arrivent pas et qui viennent me voir.
Merci Jean-Christophe. Si des auditrices ou auditeurs veulent faire appel à vous, que doivent-ils faire?
Ils peuvent me trouver sur mon site internet, JCM Mental Performance, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, je suis même sur TikTok.
Très bien. Bah, écoutez, j'espère que cette émission aura donné envie de lire votre livre, dont je rappelle le titre « La performance d'une vie », à la fois un témoignage et puis ce qu'il faut retenir en fin de chaque chapitre pour arriver à gérer ses émotions, son stress, enfin beaucoup de choses. Merci Jean-Christophe pour cette belle démonstration de résilience. On retiendra qu'il faut savoir transformer les douleurs du passé en force d'aujourd'hui. Si on ne peut pas modifier les événements, nous pouvons modifier la perception que nous en avons et surtout garder, voilà ce que je disais, à l'esprit que le verre doit toujours être à moitié plein. Merci Jean-Christophe.
Merci Jacqueline.
Voilà, quelques minutes de musique avant de continuer et de retrouver ensuite Claire Gouzic. À tout de suite sur IDFM Radio. We'll be right back.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, je l'ai bien dit cette fois-ci, auteur d'un ouvrage, La performance d'une vie, un témoignage et un guide précieux pour donner le meilleur de soi-même, et Claire Gouzic, fondatrice et dirigeante du Faubourg de la Renaissance pour rénover des meubles. Une activité de passion, mais qui s'inscrit dans une démarche économique et écologique. Alors, juste avant de vous donner la parole, Claire, je voudrais réparer une erreur que j'ai faite, que m'a fait remarquer Jean-Christophe, à savoir que j'ai dit que c'était un réparateur mental, et en fait, c'est un préparateur mental. Mais finalement, on s'est dit que réparateur, ça...
Ça marche bien aussi.
Ça marchait bien aussi. Merci Jean-Christophe. Donc on enchaîne avec vous Claire. Donc nous nous étions rencontrés au dernier salon Effervescence, oui. Hein, où vous aviez pu exposer suite aux entrepreneuriades oui. Lancées par Initiative 95 et l'agglo Pleine Vallée.
Mm-hmm. Où j'avais obtenu le prix porteur de projet il y a un peu plus d'un an maintenant.
Très bien. Bah écoutez, merci de nous le rappeler. Bravo, bravo pour ça. Donc votre parcours académique, c'est une licence de graphisme, un master 2 communication visuelle et puis une formation rénovation meuble. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que vous avez pas toujours eu envie de faire ça ou comment ça
après,
s'est passé?
Après, je pense que le parcours artistique est toujours
a toujours été là.
Sinueux.
Oui.
Donc du coup, j'ai fait plusieurs métiers. Les derniers, j'ai été 2 ans comme calligraphe freelance.
Parlez bien en face du
pardon,
micro.
Excusez-moi. Pendant 2 ans, j'ai été calligraphe freelance pour le luxe. Après, j'ai passé 5 ans chez LVMH comme artiste peintre et artiste de personnalisation. Et en fait, ces cinq années en tout cas dans cette énorme société m'ont beaucoup appris. Mais j'avais à titre personnel besoin de trouver plus de sens. Parce que c'est quand même, ça reste un rouleau compresseur, donc au niveau artistique, j'étais quand même très très limitée. Oui. Et j'avais besoin de retrouver justement ce sens dans mon travail de création. Et du coup, c'est pour ça que pendant 2 ans, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pourrais faire après ça.
Oui.
Et parce que bon, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien, mais faut trouver quelque chose qui soit viable et puis ça fait peur de lâcher un CDI, enfin tout ce qui va avec. Donc
bien sûr.
Ça, on y va quand même un peu préparé.
Est-ce que vous avez eu deux activités parallèlement, c'est-à-dire votre activité de salarié, puis vous êtes lancé petit à petit?
Non, j'ai mis les deux pieds dans le vide. Hein.
Sans filet.
Ouais, non, il faut. Hein. Puis j'avais besoin de voilà, j'avais besoin en fait de passer à autre chose. Besoin de passer à autre chose, donc du coup. Ben, j'ai une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de pouvoir créer ma société de manière un peu sereine. Mmh. Et du coup, j'avais, je voulais quelque chose qui soit dans cette ère du temps. J'avais besoin de quelque chose qui soit écologique. J'avais besoin.
Vous aviez besoin de donner du sens.
Ouais. Ouais. De, et puis voilà, qui où on soit. Enfin, on est tous concernés par cette rénovation de meubles parce qu'on a. On a tous chez nous des meubles auxquels on tient et qui sont un peu vieillots, mais qui sont très pratiques, mais qui vont pas avec la décoration. Et c'est vrai que je trouvais que cette idée de pouvoir les rénover était une alternative super intéressante et pour tout le monde en fait. Ouais.
Et ce goût de vers le milieu artistique était influencé par votre propre milieu dans votre famille
Oui. Après, j'ai j'avais des artistes dans la famille et puis surtout c'est que j'avais ce genre de passion, c'est un peu viscéral en fait. Enfin, c'est comme une respiration. Enfin, je dessinais depuis autant que je m'en souvienne, depuis que j'ai tenu un crayon
et ça
c'est un parcours un peu comme les musiciens, des choses comme ça. C'est on vit avec en fait. Et du coup j'ai été apprentie tatoueuse, j'ai été dessinatrice, j'ai été graphiste, etc. Et en fait tout ça sert d'éventail après pour sa profession en fait au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que du coup, en rénovant des meubles, je les personnalise, je les calligraphie parce que je les signe. Donc du coup, en fait, tous mes anciens métiers sont là, en fait,
c'est
dans
ça.
Mon entreprise maintenant.
D'accord, ok. Et alors aujourd'hui, le regard porté sur votre métier par votre famille
Mon mari et mon fils sont très fiers et heureusement qu'ils sont là parce que être entrepreneur,
c'est
pas simple tous les jours.
On le dit souvent, c'est pas un long fleuve tranquille.
Russe, mais c'est un peu ça. Et c'est compliqué de monter une entreprise en France. Hein. C'est un parcours. Il faut être, je pense, préparé parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quitter une entreprise c'est facile, mais on se retrouve seul. Et avec beaucoup de travail, parce qu'on fait pas un métier, on en fait huit. Voilà, on est comptable, on gère les sites internet, on est notre propre commercial. Enfin voilà, au-delà de notre travail.
On relance les factures, les devis.
Les factures, l'administratif. Enfin voilà, c'est très lourd en fait. On s'en rend pas compte. Et c'est vrai que après il faut être très bien entouré, je pense. Parce qu'on peut pas le faire si on est tout seul, en fait.
Que le cœur de votre métier, c'est justement de passer du temps à rénover.
Oui.
Donc il faut faire ça dans un esprit serein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il faut pas se dégoûter, en fait, y a une masse de travail très importante et il faut que ça reste une passion. Il faut rester animé et l'entourage, que ça soit personnel ou même professionnel, avec d'autres entrepreneurs ou même des coachs, etc., qui peuvent vous aider. C'est primordial,
c'est très
pour
précieux.
Tenir dans le temps, ouais.
Claire, je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause et puis on attaque après vraiment la rénovation des meubles.
Ça marche.
À tout de suite.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris. Un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Coro gitano, ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur. Coro gitano, gitano. El color de mi cielo, gitano. Chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin. Et soudain tu deviens mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Color gitano, ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur. Color gitano, gitano. El color de mi cielo, gitano. Le cœur qui va sur ma peau, gitano.
écoutez l'économie en direct avec Jacqueline Vauraz.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin je suis en compagnie de deux passionnés qui échangent entre eux, mais on va essayer de leur faire redire ce qu'ils nous disent en off parce que c'est trop passionnant. Voilà, donc Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, et Claire Gouzic, fondatrice et dirigeante du Faubourg de la Renaissance. Claire, donc vous étiez dans une vie confortable avec dans le groupe LVMH, et cependant vous ne vous y sentiez pas si bien que ça.
Non, parce que après, je pense que être artiste, avec leur queue, je me demande si c'est extrêmement compatible avec une aussi grosse société en fait, parce que.
Vous aviez des objectifs quand vous disiez que vous faisiez de la peinture pour eux.
Oui.
Vous aviez un délai probablement.
Il y avait des délais,
voilà,
il y avait des objectifs, il y avait une certaine pression, il y avait un certain calibrage aussi. Et c'est vrai que,
pour le coup, vous étiez dans la performance, mais je veux dire plutôt le rendement.
Ouais,
le rendement.
Il fallait du débit en fait. Mais ce que je comprends, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que. Personnellement et puis professionnellement, moi je m'y perdais, enfin je m'y retrouvais plus, et puis quand on est passionné comme ça et que du coup on a l'impression que ce qu'on fait ne sert plus, on sent ça nous détruit en fait. Donc c'est pour ça que je suis partie aussi, c'est que je me sentais détruite.
Et donc le fait de vous mettre à rénover des meubles, vous nous disiez, puisqu'on parlait de réparateur mental et non préparateur, vous disiez que ça vous a réparé quelque part.
Absolument. Ouais, c'est vrai, parce que le fait de rendre vie à ces meubles, ça m'a permis de pouvoir me reconstruire aussi, parce que forcément, on parlait de burn-out tout à l'heure. Forcément, j'y suis passée. C'est un peu la maladie du siècle, professionnellement. Et du coup, la reconstruction est lente. Et c'est vrai que beaucoup de gens se mettent en entrepreneur parce qu'ils ont besoin de retrouver ce sens. Et ils ont besoin de réparation aussi professionnelle. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à réparer des meubles, je me suis reconstruite. Et c'est pas pour rien que... Enfin, je pense que c'est pas totalement un hasard si mon entreprise s'appelle Faubourg de la Renaissance.
Oui, je comprends.
C'est pas pour rien. Je pense que voilà, la boucle est bouclée. Oui, et c'est vrai que c'est, c'est plus j'avance dans mon entreprise, plus je grandis et plus je me découvre, plus je vois que finalement, les limites que sont celles que je m'impose.
Oui.
Et en fait, c'est une réparation aussi, une reconstruction Il n'y a pas que les meubles, en fait, finalement.
C'est ça. Je vois Jean-Christophe qui opine de la tête. Vous avez une réflexion à porter,
oui.
Jean-Christophe?
J'aime beaucoup ce que j'entends parce qu'effectivement, un des premiers freins qu'on entend, c'est les limites qu'on se pose. Et effectivement, les limites sont celles que l'on s'impose. Et quand on arrive à dépasser ça, à voir grand, et quand on se lance, comme le fait Claire, dans sa passion, ça veut dire que déjà, on s'est autorisé à voir autrement et autre chose, et voir beaucoup plus loin que ce que nous proposent certaines entreprises qui ne donnent pas de sens à ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de reconversions. Et félicitations, parce que c'est toujours un cap à passer. Et
complètement.
Voilà.
Claire, donc vous avez bénéficié d'une aide financière, on va dire, avec votre départ de l'entreprise.
Ouais, et puis le concours aussi que j'ai gagné m'a permis d'apporter d'avoir.
Donc parce que vous avez quand même dû investir forcément dans ce
forcément.
Pour c'est assez lourd parce qu'il
Il
faut acheter
du matériel,
des vernis, des pinceaux, des brosses.
Et puis même administrativement, faut créer les statuts, ça prend c'est de l'argent, faut déposer le nom, ça c'est de l'argent. Faut s'installer. On se rend pas compte quand on démarre en fait du mur en fait qu'on peut avoir en fait. Me souviens quand j'ai vraiment démarré, juste la création d'entreprise m'a pris 8 mois. De chercher.
Quand l'avez-vous créé exactement?
En septembre de l'année dernière.
D'accord. Ouais. D'accord. Ah oui.
Donc
c'est
du coup, il faut chercher sa clientèle, faut l'étudier, faut étudier la concurrence et tout ça. C'est du temps qu'on passe pas à faire son vrai métier. Donc en fait, on a un peu le syndrome de l'imposteur parce que au démarrage, on crée une boîte, mais en fait, on dit oui, je suis artisane, je fais des meubles, mais en fait, on n'a pas touché de meubles. Donc c'est une période un peu compliquée. Et en fait, il faut y aller et puis pas trop regarder trop loin. Semaine par semaine, jour par jour, heure par heure, on avance comme ça. Et puis au final, il n'y a rien d'insurmontable. Mais c'est vrai que Il faut être aidé parce que les aides, enfin, tout seul c'est trop compliqué, oui, puis on peut pas tout savoir.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que financièrement il faut que les gens soient quand même préparés à ça. Il faut être aidé aussi, hein, quand même.
Et alors, comment vous vient l'inspiration? Parce que j'imagine que selon le meuble que vous allez devoir rénover, vous allez aller plutôt dans une direction qu'une autre.
Hein. Oui, bah après, c'est marrant parce que ces meubles-là, une fois que je les ai rénovés, je leur donne un prénom.
Ah.
Parce que je trouve qu'il y a du sens là-dessus, parce que ils ont habité notre quotidien pendant des décennies. Ouais, non, mais au-delà de ça, ils ont accompagné des foyers, ils ont 10, 20, 30, 100 ans, en fait, et ils sont toujours là, et ils ont accompagné une, deux, trois, quatre familles. En général, on les a en héritage. Mm-hmm. Ils ont leur caractère. Donc, en fait, une fois que je les ai mis à nu, parce que souvent, les vernis, les vernis très marrons, très brillants, etc., on ne voit pas l'essence même
du
bois.
Ça cache la misère, oui.
Un peu, ouais. Et du coup, une fois qu'on a tout pensé et que le meuble est à nu, on arrive vraiment à avoir son identité, en fait, et ils ont du caractère, enfin voilà. Et puis un meuble, par exemple un lit, n'est pas la même chose qu'une console, qu'une coiffeuse, chaque meuble a son identité. Et du coup, une fois que c'est à nu, je leur trouve une couleur, je leur trouve un papier peint adapté, je leur fais une illustration qui peut correspondre à un style art déco, art nouveau, etc.
Bien sûr.
Et du coup, après je leur donne un prénom ancien parce que ça leur va bien. Et il y a Gloria, il y a Valérie, il y a Edith, en fonction de
vos
de
meubles,
ce qu'ils sont.
Vos meubles renaissent également.
Exactement. Ouais.
Et ces meubles, ce sont des particuliers qui font appel à vous pour les rénover. Ce sont des meubles que vous trouvez en brocante. C'est comment faites-vous?
Alors j'ai deux business dans cette entreprise. J'ai les meubles que je chine en circuit court que je rénove à mon goût et qui sont vendus je sais pas si je peux faire la pub, au concept store, c'est vrai, à Enghien, en fait, qui est géré par la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat.
On va venir y faire un petit reportage. Hein,
exactement. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir des meubles que moi, j'ai choisis et qui sont à mon goût et du coup, que les gens peuvent voir. Et puis, ça permet aussi à mes clients de voir aussi mon travail.
Bien sûr.
De visu, parce que Internet, c'est bien, mais des meubles, ça se touche. Le bois, ça se touche.
Complètement.
Et donc ça, c'est la première partie de mon business. Et la deuxième, c'est que je fais de la rénovation sur mesure des meubles de famille. Donc je vais chez les gens, je vois avec eux la décoration de leur intérieur et ça permet déjà qu'ils gardent des meubles auxquels ils sont attachés, qu'ils n'aient pas à les jeter pour racheter d'autres de moins bonne facture à des prix qui sont excessifs de nos jours dans les magasins de décoration. Et ça leur permet d'avoir un meuble sur mesure, dans la couleur exacte de ce qu'ils font leur décoration. Et c'est au niveau écologique, c'est un impact incroyable.
Bien sûr.
Et même économiquement, parce qu'il faut se débarrasser des meubles. Le Bon Coin est saturé de meubles. Mmh. Certaines villes maintenant ne les prennent plus aux encombrants. Il faut se déplacer soi-même en déchetterie. Mmh. Donc il y a quand même un impact. Et puis certaines personnes ne peuvent plus physiquement faire ce genre de choses.
Ouais.
Et même temps d'avoir quelque chose de nouveau.
C'est vrai, il y a une vraie désaffection pour ces meubles. Je sais que dans les salles de vente, c'est pareil. Des meubles qui ont coûté très cher à une époque valent vraiment plus rien.
Ils coûtent moins cher que du bois brûlé.
C'est
quoi.
Ça.
C'est terrible, parce que c'est notre patrimoine.
Il y a le syndrome d'une marque bien connue. Une marque dans les pays du Nord et qu'on ne citera pas.
On voit très bien.
Mais
les
gens se meublent plus que comme ça.
Les gens se plaignent d'avoir la même chose que Monsieur Tout-le-Monde.
Ouais.
Et au-delà de ça, ils jettent des meubles qui sont sur mesure, parce que c'était fait à la main, où tous les chevrons, toutes les charnières sont faites à la main, dans un bois, moi je les porte, je peux vous dire que c'est du vrai bois et pas du contre-collé.
Lourd,
Et c'est de la qualité. Et en plus, leur qualité, leur durabilité a été déjà validée parce qu'ils ont 10, 20, 50, 70 ans et qu'ils sont là, ils n'ont pas bougé en fait, même le vernis n'a pas bougé. Donc c'est déjà une preuve en soi.
Je crois que Jean-Christophe va intervenir.
Oui, en fait, en vous écoutant, je fais une belle corrélation entre l'humain et le meuble. La façon dont vous en parliez, en disant qu'une fois qu'on a décapé, qu'on a trouvé en fait le côté unique du meuble, mm-hmm. le côté l'essence du bois, etc. Enfin, ce qui le rend unique, ce qui le rend presque beau et parfait. En fait, c'est un petit peu ça. Et pour éviter qu'il finisse à la poubelle ou qu'il finisse je ne sais où dans quelle déchetterie. En fait, l'être humain, c'est pareil. Vous parliez de burn-out tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à gratter un petit peu en dessous de cette couche de protection qu'on se met, découvrir quelle est la belle personne qui est à l'intérieur, parce qu'on est tous uniques, donc on est tous beaux et tous parfaits.
Non, mais c'est vrai.
Et du coup, pour éviter de finir dans des états presque pas loin de la déchetterie, parce qu'il y a des gens qui se sous-considèrent énormément, et alors qu'il y a cette unicité, et on pourrait. Alors, la seule chose que je fais pas, c'est de changer le prénom.
On pourrait finalement dire maintenant je m'appelle un tel.
Mais le parallèle sociétal est vrai. Hein.
Oui.
Il y a une standardisation un peu de tout, alors que entre l'humain et les meubles, c'est la même chose. En fait, il y a ce côté unique que nous recherchons tous, et qu'en même temps on n'ose plus faire parce qu'on a peur un peu de sortir des clous. Et en fait, c'est primordial parce que mine de rien, quel ennui sinon.
Oui, oui, oui. Alors, voyez, moi, ce que j'adore dans mon émission, c'est quand et ça arrive souvent. Hein, je dois le dire, quand mes invités comme ça, il y a une symbiose qui se crée. Et voilà, c'est mon bonheur
ça dans l'émission. Ping-pong entre nos deux professions.
Claire, je propose encore une nouvelle pause, et puis vous allez peut-être nous décrire des meubles que vous avez rénovés. Plus précisément.
Bien sûr,
à tout de suite.
IDFM 98FM. C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. C'est son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi. Car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit. Danse. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie.
C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum.
IDFM Radio, l'économie en direct, dernière ligne droite avec Jean-Christophe Maisonneuve et Claire Gouzic. Claire, on sent que vous êtes complètement investie hein, par cette cette activité ouais. de rénovatrice. Mm-hmm. Vous avez trouvé votre voie, on sent que vous êtes bien. Moi, j'aimerais que vous nous décriviez peut-être soit le dernier meuble que vous avez restauré, soit... alors, on parle de restauration, de rénovation.
Alors, moi, je dirais plus... Alors, après, il y a plein de différents termes. Il y a un relooking que moi je trouve un peu cheap.
Oui.
Restauration pour moi c'est plus du mobilier de musée vraiment ancien où on le reste dans à l'origine voilà de noble du meuble où on rénove un peu comme des tableaux, le vernis etc, la marqueterie. Moi je dirais plus rénovation parce que déjà on est en France et j'aime bien les mots français, c'est sympa.
Oui, oui.
C'est plus joli et puis c'est vraiment ça, on part de quelque chose qui est désuet, un peu abîmé, et on en fait quelque chose de neuf. Donc pour moi, oui, c'est une rénovation.
Mmh, mmh.
Donc c'est vraiment un terme que j'affectionne plus et qui me correspond mieux. Et puis voilà, j'ai une entreprise française, je vais pas parler de relooking, quoi, ça m'intéresse pas.
Alors, avant de nous décrire un meuble, vous, aujourd'hui, vous en vivez, votre activité?
Alors, c'est toujours très, très, très compliqué. Ça fait qu'un an, donc faut attendre que le business se pose.
Mmh.
Je suis contente depuis la rentrée de septembre, j'ai pas mal de chantiers, donc je suis très ravie parce que le bouche à oreille commence, ouais, le bouche à oreille commence à faire effet parce que mine de rien les gens ne savent pas qu'il y a cette option de rénovation et que on peut faire du neuf avec du vieux et du coup ça commence à venir puis avec l'actualité avec les bonus réparation et tout, les gens commencent à se rendre compte qu'il peut se passer quelque chose et qu'il peut y avoir une alternative et qu'ils peuvent garder le meuble de leur arrière-tante ou leur grand-mère tout en ayant quelque chose de nouveau. Et donc ça commence. Après voilà, ça prend du temps et c'est vrai, j'éprouve une certaine impatience.
Vous êtes impatiente. Hein,
Et puis mine de rien, j'ai la pression aussi de savoir que mon chômage s'arrête à la rentrée prochaine.
C'est
donc
ça.
Il y a aussi besoin de vivre comme tout le monde. Donc voilà, je suis dans un processus là de mon entreprise où je commence à installer des stratégies plus commerciales pour arriver à me faire connaître. Je vais commencer à mettre mes meubles en vente sur des plateformes en plus pour avoir un plus grand panel aussi de visibilité. Et puis voilà, il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Donc votre activité principale c'est quand même de rénover.
Mm-hmm.
Vous passez combien de temps par jour à cette rénovation?
Ça dépend. Par exemple, là, la dernière rénovation que j'ai faite, j'ai rénové une chambre à coucher complète, donc chevet, un miroir et un lit de place en orme. Donc c'était pesait le poids d'un homme mort. Mmh. et du coup, ça m'a pris une semaine parce que il faut le temps de poncer, il y a les temps de séchage, il y a les sous-couches, il y a tout ça et puis c'est des meubles qui sont imposants, donc sur des rénovations grandes comme ça où des fois je fais des salles à manger, donc une table, 6 chaises, donc ça prend du temps. Mais ça dépend en général, ça dépend du meuble.
Oui.
Et étrangement, plus le meuble est petit, plus c'est long.
Ah oui, parce que c'est peut-être pas facile.
Il y a plus de coins, il y a plus de détails, donc du coup c'est... Ça dépend et puis c'est rigolo parce qu'en fait à chaque meuble que je rénove, il y a toujours une anecdote. Par exemple, vous me demandiez de décrire un meuble, j'en ai un auquel je suis très attachée. C'est un buffet fin 19e avec un canage en éventail d'origine intact.
Ah oui.
Qui est une pure merveille que j'ai trouvé au fond d'une péniche dans une cale que je suis allée récupérer avec mon voisin où on a dû monter la butte des rives de Seine. Enfin, ça a été une aventure assez exceptionnelle et en fait la cliente, enfin la dame qui me l'a vendu m'a dit que de toute façon elle le trouvait très beau mais qu'il était trop marron pour elle et que du coup c'était un peu soit moi soit la poubelle.
Heureusement qu'elle vous a trouvé vous.
Ouais, heureusement que j'ai trouvé ce mec parce que c'est vraiment une pure merveille. Si vous voulez le voir, vous pourrez le voir sur mon site faubourg-renaissance.fr. Et ça me terrifie parce que c'est du sur-mesure quand on voit là, il y a juste une porte sur ce buffet et le canage est sur mesure et on voit tout le travail de l'artisan avec des mini clous. C'est une véritable œuvre d'art en fait de notre patrimoine. Et je me dis mais comment on peut même envisager que ça finisse dans une poubelle. Enfin c'est terrible pour notre artisanat parce que ça a quand même l'artisanat français et l'art français en général ont rayonné à travers le monde pendant des siècles et qu'on voit maintenant que notre société met tout ça à la benne, ça me terrifie. Voilà. Je trouve ça très triste.
Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics sont conscients de ce phénomène ou pas trop?
Oui, bah ils commencent. De toute façon, je pense que en vue de tout ce qui se passe, je crois qu'il faudrait être aveugle pour pas en prendre conscience. Tardivement, malheureusement pour nous tous, mais on fait un peu tout ce qu'on peut. Pour aider à notre petite échelle. C'est vrai que oui, il commence les bonus réparation, c'est vrai que c'est une excellente chose hein, pour tout le monde et surtout pour les artisans parce que ça nous aide aussi à pouvoir maintenir notre clientèle et peut-être à déclencher aussi des rénovations.
Oui, et puis aussi même une prise de conscience chez certains.
Ouais, il le faut, c'est nécessaire maintenant hein, parce que là, c'est plus pour nous, hein, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut commencer à faire quelque chose. Et puis ouais, c'est primordial.
Et ce buffet là dont vous parliez, la personne à qui vous l'avez pris, elle l'a vu depuis ?
Oui, je lui ai envoyé des photos.
Alors ?
Ouais, parce qu'elle m'avait dit oui, si vous le rénovez, envoyez-moi des photos. J'avais gardé son contact et en fait, elle a été bluffée. Elle lui a fait plaisir en fait de voir en fait que voilà, c'était plus un meuble poussiéreux au fond d'une cale d'une péniche, mais que il était devenu rayonnant. Il est rose pâle et blanc.
Oui.
Et avec un papier peint avec des oiseaux dessus, très végétal, ce qui correspondait bien avec le canage.
Oui, avec le canage.
Et elle s'appelle le buffet s'appelle Rosalie. Donc je trouvais que ça lui allait bien. et ça l'a touchée en fait parce que c'est aussi ça mon métier, ce que j'aime beaucoup, c'est cette relation aux gens.
Bien sûr.
Parce que forcément on rentre dans l'intime, les meubles que je rénove par exemple sont des héritages ou des meubles avec lesquels ils ont grandi petits. Donc il y a un affect et du coup quand je demande à mes clients de leur donner un prénom, ça crée des réunions de famille. C'est les prénoms des arrière-petits-enfants ou des grands-mères ou des sœurs ou d'un ami cher qui a disparu
Alors je trouve que vous êtes en train de nous convaincre de ce terme faubourg de la Renaissance, hein, c'est totalement adapté. Ça aurait été dommage que vous restiez chez LVMH.
Tant mieux pour moi. Et puis voilà, mais j'ai vraiment l'impression de professionnellement pour la première fois de ma vie d'être à ma place.
Ça c'est
important. Et Dieu sait qu'on est nombreux à chercher sa place professionnellement. Et quand on l'a trouvé, je pense que voilà, je sais que ça va être un peu compliqué financièrement mais franchement le gain, le bénéfice, la transformation, ça n'a pas de prix en fait. Et le temps, enfin je perdais 10 heures par jour dans les transports. J'ai du temps pour mon fils.
Parce que alors votre atelier où est-il?
Je travaille chez moi comme les artisans au 19e siècle.
D'accord.
Je travaille chez moi. Après quand les
maçons trouvé l'espace?
Je pousse les murs. Oui. Des fois mon mari il me dit pourquoi t'as pas fait des miniatures. Mais voilà, je m'adapte et puis quand c'est trop imposant chez les clients, je fais les rénovations sur place.
D'accord, bien sûr.
Donc voilà, je m'adapte et puis on fait comme ça et pour l'instant ça fonctionne. Donc, écoutez, je me plains pas.
C'est vraiment le souhait qu'on formule que ça marche à fond et que si nous on peut vous aider en parlant de vous, on le fera volontiers.
C'est gentil,
Claire.
C'est important, gentil pour nous de qu'on se fasse connaître et qu'on ait de la visibilité.
Une belle aventure, Jean-Christophe, avec Claire. Hein.
C'est
magnifique.
C'est beau d'entendre ça et surtout de l'avoir se révéler entièrement.
Oui, complètement. vous êtes.
C'est vraiment.
Vous êtes épanoui.
Exactement. Ouais. De passer d'une vie qui manque de sens, on y va en reculons. Et puis de trouver sa voie et surtout de pouvoir en vivre et de pouvoir avancer et de faire en sorte que la passion dépasse les freins et les peurs qui peuvent être là au quotidien parce que être entrepreneur en reconversion, donc j'imagine avec femme, enfant,
mari, enfant pour ma part,
c'est jamais simple. Vous parliez tout à l'heure de Pôle emploi, etc. Donc financièrement il y a des enjeux. Ça peut faire peur, ça fait peur.
Ça fait peur, oui.
Et il faut être capable d'assumer ça. Mmh. Et c'est aussi pour ça que, qu'il est important de donner sa place à l'humain.
Oui, voilà. Complètement.
Mais c'est vrai, hein, mais c'est vrai que moi, une petite anecdote.
Merci Jean-Christophe.
Pardon, mais quand j'ai tout plaqué pour monter mon entreprise, la plus grande réaction que j'ai eue, c'est t'es folle.
Ouais.
C'est fou, hein, de se dire,
oui,
en fait.
Mais il n'y a jamais de bon moment, de toute façon.
Non, mais de toute façon,
ça
va même au-delà de ça, c'est qu'en fait, les gens, en fait, n'osent pas le faire. Et en fait, attendent un peu que vous casser la figure pour se conforter dans le sens de j'ai pas bougé en fait.
Ah oui, ça c'est très humain aussi.
C'est très
ça,
humain et en fait du coup
de
me dire que j'allais tout planter et que j'allais perdre mon confort, les gens m'ont pris ça pour de la folie.
Ah ouais.
Et que je trouve que l'inertie dans son travail de rester 30 ans dans un métier qu'on n'aime pas, elle est là la folie. Et c'est rigolo parce que voilà, je m'en sors et les gens me disent oh, t'as un sacré courage. Et c'est rigolo l'évolution des termes en fonction de l'évolution de son entreprise ou de soi. C'est déstabilisant.
Il y a toute une analyse sociale à faire hein, sur le sujet. Ce qu'il faudrait, c'est que LVMH voie vos meubles. Et puis
oui. Ouais, après, ça a été une sacrée expérience. J'en serais pas là aussi si j'étais pas passée par ça.
Oui.
Donc ça fait partie des expériences de vie, ça forge, ça forme. Voilà, ça fait partie. Mais je pense que j'étais faite pour être indépendante
dans ce domaine. Claire, je vous pose la même question qu'à Jean-Christophe. Si des auditrices auditeurs veulent faire appel à vous, donc que faut-il faire?
Faubourg-renaissance.fr, mon site internet. Vous pouvez voir aussi mon travail sur Instagram, parce que c'est bien aussi de voir les artisans
donc
à l'œuvre.
Donc c'est sous votre nom, Claire Musique.
Ouais, Faubourg-renaissance.
D'accord.
Enfin, oui,
très bien.
Toujours pareil et voilà. Et puis vous pouvez voir mes meubles aussi au Concept Store, c'est vrai, 16 rue du Général de Gaulle à Enghien. Et puis ça permet aussi de voir les autres créateurs du Val d'Oise, parce que c'est important.
Complètement.
Et on fait des choses originales, c'est bien. C'est pas standard, ça fait des cadeaux cool et puis ça nous fait vivre.
Je vais y foncer pour les voir. Merci Claire,
merci
infiniment de nous avoir sensibilisé à cette belle et noble activité et puis d'avoir justement mettre en avant toute cette partie de savoir conserver des meubles anciens et puis avec son côté écologique hein, ça c'est important parce qu'on peut dire que l'écologie aujourd'hui c'est incontournable.
C'est ça.
On retiendra hein, ce plaidoyer de ne pas mettre notre patrimoine à la poubelle.
Et nos meubles sont éternels.
Et puis qu'il est beaucoup plus malin de vous les donner pour les rénover.
C'est ça.
Voilà, je peut-être encore une courte pause Sabrina et puis après on conclut l'émission. À tout de suite.
J'ai trop vu de choses que je ne pourrais expliquer. Inutilement j'ai aimé, j'ai trop donné de love à des personnes insensées qui au final m'ont bien lâché. Mais laissez-moi avancer, je veux pas passer à côté de tous mes rêves. Quand je tombe et je me relève, je bombe le torse pour mieux exister. Au moins une force qu'on ne peut stopper. Param, pam, param. Des promesses tenues, des faveurs et des balles perdues. J'ai des amis, des envieux. Je raterai encore mais je raterai mieux. Miroir, miroir, me dis pas que je suis la plus belle. Parfaitement imparfaite, plus jamais de doute en tête. Je l'ai décidé, j'ai avancé pour ne plus passer à côté. Aujourd'hui je vis mes rêves. Plus je tombe, plus je m'élève. Je bombe le torse pour mieux exister. Au moins une force qu'on ne peut stopper.
C'était l'économie en direct et voilà, la fin de l'émission arrive. Et avec moi, Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, auteur d'un ouvrage « La performance d'une vie », témoignage et guide précieux pour donner le meilleur de soi-même. Et Claire Gouzic, fondatrice et dirigeante du Faubourg de la Renaissance, et quelle renaissance, pour rénover des meubles, une activité de passion mais qui s'inscrit dans une démarche économique et écologique. Donc voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission, Jean-Christophe et Claire. Et puis, la tradition veut que je demande un mot de conclusion. Donc, Jean-Christophe, peut-être un mot de conclusion?
Oui, alors, ce qui ressort de ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est l'importance de l'humain.
Oui.
Et de ne pas s'arrêter sur les étiquettes qu'on nous colle ou sur le fait d'être ou de s'identifier à cette étiquette.
C'est difficile, hein, ça.
Voilà.
C'est difficile de s'en débarrasser.
C'est être plutôt que chercher à obtenir ou chercher à coller à quelque chose. Et que ce soit une étiquette d'un vieux meuble qu'on veut jeter ou l'étiquette d'un salarié qu'on met au placard ou qui trouve pas sa place. Donc partout, je pense que on peut et on doit chercher à gratter un peu pour révéler ce qui est à l'intérieur, pour créer son monde extérieur.
Le trésor qu'on a au fond de soi-même.
Voilà.
Merci beaucoup Jean-Christophe. Je rappelle le titre de votre livre, La performance d'une vie. Un livre très instructif à tout point de vue, en émotion et en conseil pour tirer le meilleur de soi-même. Claire, un mot de conclusion avant de nous quitter.
J'aimerais bien adresser un message pour les entrepreneurs. Parce que c'est pas facile et voilà, il faut s'accrocher en fait, faut croire en soi beaucoup et faut s'entourer de bonnes personnes, beaucoup de bienveillance et surtout avec soi-même parce que c'est frustrant et des fois on s'en veut beaucoup de pas arriver à ses objectifs à temps, mais c'est un marathon, c'est long.
Ouais.
Il faut aller dans des réseaux d'entrepreneurs parce qu'on n'est pas tout seul. Et que je sais que moi, ça m'a beaucoup servi, en fait, de pouvoir parler avec des gens qui ont soit en train de vivre ce que je vis, soit qui l'ont vécu. Et puis on est sacrément courageux, mine de rien, de faire
complètement.
Ça. Et c'est l'aventure d'une vie. Et j'en suis très fière et je trouve que faut le partager parce que, il y a plein de gens qui ont peur d'y aller qui savent pas comment y aller.
Alors qu'il suffit d'y aller pour voir ce qui se passe. On a peut-être la peur au ventre, mais en même temps, on se réalise. Donc, c'est ça le plus important.
De toute façon, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aller. Et puis, au pire, ça marche pas. On aura quand même une sacrée
expérience.
Vous aurez
essayé. Ouais. C'est vrai. Merci Claire, ce sera le mot de la fin. Merci pour cette belle lueur d'espoir. Merci à tous les deux d'avoir passé cette matinée en direct avec nous. Et j'espère que nos auditrices et auditeurs seront convaincus de faire appel à vous respectivement.
J'espère aussi.
Merci Sabrina pour la technique. Merci à vous tous qui nous suivez très fidèlement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission comme vous le souhaitez en podcast sur idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mardi prochain, focus sur la CPME du Val d'Oise avec plusieurs invités encore sur le plateau. Belle journée et bon week-end.
IDFM, 98 FM.
Tu veux taper des barres, apprécier de nouveaux sons et découvrir des profils inspirants? Viens. L'équipe de Tous Ensemble t'invite à écouter Focus. Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. Focus, des histoires uniques.
Portées par le rythme de la musique.
Ça se passe sur IDFM Radio, 98 FM.
Salut, c'est Franck. Retrouvez-moi tous les mardis à 18h pour Spectrum, l'émission musicale Feel Good à spectre large, pour partager avec vous mon amour des morceaux les moins connus des albums cultes, des BO de films et des samples mythiques. Spectrum. Tous les mardis à 18h, c'est Spectrum sur IDFM Radio.
Salut, c'est Sabrina.
Salut, c'est Axel.
Retrouvez-nous tous les vendredis de 16h à 17h
pour le Carré des Artistes sur IDFM Radio.
L'émission qui booste les talents émergents.
IDFM, 98 FM.
Make our trouble lovers.
Pas jobs. Et ça je te le dis même quand
écoutez vos sons préférés sur IDFM Radio.